marque-page.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Nous sommes déjà le 1er février et nous célébrerons dans une quinzaine de jours la Saint-Valentin. Afin de se mettre tout doucement dans l'ambiance, je consacrerai le marque-page d'aujourd'hui à un roman dont j'étais impatiente de vous parler. Il relate une belle histoire d'amour, tumultueuse et romantique à souhait. J'avais adoré lire ce roman lorsque je l'avais lu au cours de mon année de préparation des concours de la fonction publique. Il s'agit des Chouans, le premier roman que Balzac a publié sous son vrai nom, en 1829. Un soupçon vient probablement de traverser l'esprit de certains d'entre vous. J'admets que la coïncidence est plus que troublante, mais mon choix n'a pas été dicté par la sortie récente du film « Vaincre ou mourir », qui retrace l'histoire du général vendéen Charette de la Contrée. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce film a fait polémique dans la presse, car il s'agit du premier long métrage produit par le Puy du Fou. Pour ma part, j'ai attendu le mois de février pour évoquer Les Chouans de Balzac, non pas parce que je connaissais la date de sortie de ce film, mais parce que cette période, à l'approche de la Saint-Valentin, me semble fort appropriée. Qui plus est, Charette de la Gontrie n'est pas un chouan. Bref. Avant toute chose, commençons par évoquer succinctement le contexte historique dans lequel s'inscrit l'intrigue de ce roman. La Révolution française éclate en 1789. Elle entraîne la chute de la monarchie absolue. Les députés des États généraux, qui représentaient auprès du roi les trois ordres de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire les nobles, le clergé et le tiers-état, s'érigent alors en Assemblée nationale. Cette Assemblée engage de profondes réformes. Elle rédige notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle abolit aussi plusieurs marqueurs de la société d'Ancien Régime, comme les privilèges féodaux ou la noblesse héréditaire. Bien que bouleversés par la chute de leur monarchie millénaire, les Français du tiers-état soutiennent dans un premier temps les travaux de cette assemblée. En effet, ils en espèrent une amélioration de leurs conditions de vie, caractérisées par une grande pauvreté. Toutefois, la méfiance s'instaure lorsque l'assemblée vote une réforme beaucoup moins populaire, la constitution civile du clergé. Dans ce cadre, les prêtres deviennent salariés de l'État. Ils doivent prêter serment de fidélité à la nouvelle constitution. De nombreux prêtres sont réfractaires à cette mesure et sont soutenus par les fidèles. Cette réforme fragilise la confiance accordée à l'Assemblée et plus largement à la Révolution dans plusieurs régions de France, rurales et profondément catholiques. À l'étranger, les royaumes voisins s'inquiètent des conséquences potentielles de la Révolution sur leur propre territoire et déclarent la guerre à la France. En France, la Convention a succédé à l'Assemblée. Pour affronter les armées ennemies, elle décrète une levée de masse. Les hommes célibataires de 18 à 30 ans sont enrôlés dans les armées révolutionnaires et partent combattre aux frontières. La levée de masse est l'élément déclencheur à travers tout le pays d'émeutes et d'insurrections de paysans déjà ébranlés par la constitution civile du clergé. Les insurrections se transforment en combats pour la défense de l'Église catholique et de la royauté. Les paysans insurgés se sont structurés en groupes armés commandés par des hommes, voire des femmes, très souvent nobles. Les insurrections les plus violentes ont lieu dans l'ouest de la France. Celle de la Vendée, dont Charette de la Contrée fut l'un des protagonistes, dégénère en guerre civile. Au nord de la Vendée, c'est-à-dire en Bretagne, dans le Maine, l'Anjou et la Normandie, les paysans insurgés sont appelés les Chouans. Quelle est l'origine de ce mot ? Il fait référence à la chouette hulotte, appelée dans ce coin de France le chat huant. Chat huant était le surnom des frères Cottereau, qu'ils tenaient de leur grand-père, un homme taciturne et solitaire comme la chouette hulotte. Les frères Cottereau étaient les chefs des insurrections paysannes dans le Maine. Par extension, les hommes qu'ils commandaient ont aussi été surnommés les chats huants, qui ont donné chouans. La mobilisation des chouans perdure bien après la guerre de Vendée, en 1796. Les chouans mènent une guerre d'usure contre les troupes révolutionnaires. Ils profitent de leur excellente connaissance du terrain pour leur tendre des embuscades meurtrières. Les Chouans deviennent des ennemis insaisissables que les troupes révolutionnaires tentent par tous les moyens de neutraliser. C'est là, en 1799, que commence notre roman. Un combat éclate entre une troupe républicaine et un groupe de chouans commandé par un certain marquis de Montauran, surnommé le Gars. Ce dernier et ses hommes remportent la victoire. Le charme opère déjà sur moi rien qu'à l'évocation du nom du marquis, et pour cause. En plus d'être noble, le marquis de Montauran est beau, jeune, brillant militaire et homme de profondes convictions, un loyal serviteur de la royauté. Son charisme est tel que le ministre de la police Fouché, qui a réellement existé, voit en lui une menace pour le pouvoir en place. Après la victoire de Montauran, Fouché décide donc de sévir. À défaut de pouvoir le vaincre par les armes, Fouché conçoit un plan plus pernicieux pour le piéger. À cet égard, il recrute une jeune aristocrate, Marie de Verneuil. Fouché lui confie la délicate mission de retrouver le marquis et de le séduire. Fouché espère ainsi pouvoir capturer Montauran plus facilement. Il a choisi la candidate idéale. En effet, Marie de Verneuil vient de perdre son mari. Elle est sans famille et surtout complètement désargentée. Marie est certes sensible aux idées de la Révolution, mais elle accepte surtout cette mission par nécessité. Marie se rend donc en Bretagne, accompagnée de Corentin, un commissaire de police, qui doit dans un premier temps l'aider à retrouver le marquis. Tous les deux y parviennent. À partir de ce moment, le plan de Fouché ne se déroule plus tout à fait comme prévu. Et vous devinez certainement pourquoi. Le marquis et Marie tombent amoureux l'un de l'autre. Plusieurs difficultés se poseront toutefois à eux. Déjà, Marie n'est pas la seule femme à être tombée sous le charme de Montauran. En outre, ce dernier découvrira rapidement que Marie est une espionne à la solde de la République. Si vous souhaitez connaître la suite de l'intrigue, je vous donne rendez-vous à l'abbaye de Bordeaux, où ce roman peut être emprunté. Dans l'attente de la réouverture de la bibliothèque de lettres et sciences humaines, il est disponible à la bibliothèque temporaire de Pessac. Une version en ligne est également proposée sur la plateforme Babor+. En attendant de vous le procurer, pourquoi je vous conseille ce roman ? Pour vibrer à la belle lecture d'une histoire d'amour, tout simplement. Je n'ai pas d'autre raison à vous apporter. La mise en scène de deux personnages amoureux, mais que tout oppose, est très courante dans la littérature. Néanmoins, la récurrence de ce motif narratif témoigne de son succès, qui ne se démentit jamais auprès des lecteurs. L'intrigue n'est pas originale, mais elle n'en reste pas moins géniale. Qui plus est, la période historique dans laquelle l'intrigue s'inscrit est en elle-même complexe et passionnante. Elle met donc formidablement bien en valeur cette histoire d'amour. Foncez donc sans hésiter. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.